On va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 6. Et on va lire quelques versets. Marc chapitre 6, verset 14. Gloire à Dieu. Marc chapitre 6, verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et Hérode dit : Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient que c'était le prophète Élie. D'autres disaient que c'était un prophète, comme l'un des prophètes de l'Ancienne Alliance. Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean-Baptiste que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean-Baptiste. Et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irrité contre Jean-Baptiste et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean-Baptiste, le connaissant pour un homme juste et saint, alors il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, mais il l'écoutait malgré tout avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva. Lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi Hérode dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Hérode ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Hérodias, étant sortie, elle dit à sa maman, « Maman, qu'est-ce que je dois demander ?» Et sa brave maman, entre guillemets, répondit, « Ma chère fille, demande la tête de Jean-Baptiste. » Alors Hérodias s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi Hérode et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi Hérode fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna, il prit la tête, hein, il la donna à Hérodias. Et Hérodias la donna à sa mère. Les disciples de Jean ayant appris cela, les disciples de Jean-Baptiste, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Nous avons ici la description de la folie d'un homme. La description du fruit de son orgueil. De son orgueil. Nous avons la description d'un homme qui a agi avant de réfléchir, qui a parlé avant de réfléchir. Un homme, en définitive, cet homme c'est Hérode, qui s'est fait prendre au piège. Il sait que le ministère de Jésus, comme tous ceux de l'époque, a une grande renommée. Tout ce que faisait Jésus, les gens de l'époque en entendaient parler, comme puis c'est des miracles, des prodiges, des résurrections, des délivrances, pardonner, il purifiait les lépreux, bref. Tout cela était connu en Israël et même au-delà d'Israël. Pourtant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas toute la technologie moderne que nous avons aujourd'hui pour transmettre des informations, et pourtant, tous ces détails, les hommes de l'époque d'Israël et d'au-delà d'Israël connaissaient cela. Donc Hérode, lui aussi, a entendu parler de tout cela et il n'arrive pas à reconnaître dans la personne de Jésus, Jésus. Il croit reconnaître dans la personne de Jésus, de par les miracles qui s'accomplissent, Jean-Baptiste qu'il a fait décapiter quelque temps auparavant. D'ailleurs, entre nous soit dit, il a quand même la foi parce qu'il croit que Jean-Baptiste est ressuscité. Je le répète, il a fait décapiter Jean. Il a quand même une grande foi. Jean-Baptiste est ressuscité et en plus il a toute sa tête. C'est là qu'on voit la folie d'un homme, dans toute sa splendeur. Folie que l'on retrouve aujourd'hui, dans beaucoup de cœurs d'hommes et de femmes de notre 21e siècle. Ils sont prêts à croire dans des choses qui ne tiennent pas debout. Ils sont prêts à croire dans des histoires à dormir debout. Ils sont prêts à croire dans des histoires qui n'ont que la chair pour appui. Ils ne sont pas prêts, par contre, à croire dans des vérités soulignées, absolues, vérifiées, constatées, vécues par beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui appartiennent à Jésus. Et le problème, c'est que ça ne touche pas seulement le cœur de jeunes et de moins jeunes inconvertis qui restent sur des positions spirituelles opposées à Dieu, mais malheureusement, c'est que ça touche aujourd'hui beaucoup de croyants. Je vous rappelle que Jésus a dit « Quand je reviendrai sur la terre, ou du moins la Bible dit, quand Jésus reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ?» Il trouvera certainement beaucoup de religiosité, il trouvera beaucoup de philosophie, il trouvera beaucoup d'opposition, il trouvera beaucoup de pensées politiques qui vont dans tous les sens, il trouvera certainement beaucoup d'humanisme, il trouvera beaucoup de ceci ou de cela qui vient de la chair des hommes pour se donner bonne conscience, mais il aura du mal à trouver la foi. Le gros problème, c'est que peut-être ce matin, quelqu'un qui est ici, eh bien, a certainement un problème avec la foi. La foi, c'est pas la foi d'Hérode. Lui qui croit que Jean-Baptiste est ressuscité. Je l'ai souligné il y a quelques instants. C'est pas la foi, ça. Ça, c'est de la superstition. Ça, c'est une mentalité occulte. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Parce que Hérode n'est pas converti. Hein. Hérode ne croit pas en Jésus. Hein. Seulement, il est dans un système idolâtre. Il est dans un système de pensée religieuse bien à lui. Il est attaché à des pensées qui vont, eh bien, à l'encontre de la sainteté de Dieu. Mais remarquez que le texte nous dit qu'il a entendu parler de Jésus. Il n'y a rien de plus terrible, mes bien-aimés, mes amis, mes frères et sœurs, il n'y a rien de plus terrible que d'entendre parler de Jésus et de rester sur une position ferme contre Jésus. Et de croire que ce que Dieu fait, c'est impossible, Par contre, de croire ce que le diable est capable de faire, c'est possible. Le diable trompe. Il ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Il n'y a qu'un seul berger, bon berger de notre âme. Il s'appelle Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres sont des menteurs. Pardonnez-moi d'être aussi direct. L'homme est un menteur. Il y a une maladie qui s'appelle la mythomanie. Il y a des gens qui vivent dans leur mensonge. Vous savez, quelqu'un un jour a dit ceci, « Le mensonge, c'est comme une armoire, il n'y a qu'une seule issue de secours. » On rentre, on est obligé de passer par le même endroit. On se fait prendre au piège, en définitive. Il y a beaucoup de gens qui sont comme cela. Ils croient dans leur mensonge. Et Hérode va croire dans le mensonge que lui insuffle l'adversaire. Il y a une différence entre le mensonge et la vérité. Le mensonge détruit. La vérité reconstruit, sauve, délivre, relève, restaure. Il n'y a pas de puissance contre la vérité, dit la Bible. Il n'y en a que pour la vérité. Hérode a entendu parler de la vérité. C'est Jésus. « Je suis la vérité », a dit Jésus. Mais lui, il croit dans quelque chose qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Il ne voit pas Jésus, il voit quelqu'un d'autre, selon son idée religieuse, pensée philosophique, superstitieuse, idolâtre. Vous savez, le Seigneur a eu maille à partir quelque part, si je puis m'exprimer ainsi, avec le problème de l'incrédulité en croisant les hommes de l'époque. Il a eu devant lui des personnes qui le méprisaient. Des personnes qui ne le croyaient pas. Des personnes qui déjà, même avant la croix, l'ont rejeté. Au point que Jésus est obligé de dire, dans le même chapitre, donc dans le contexte, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Et la Bible nous dit que Jésus, là, à Nazareth, il ne put faire aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades, il a pu ainsi les guérir, mais il s'est étonné, Jésus s'est étonné de leur incrédulité. Le problème d'Hérode, c'est exactement la même chose. Il est incrédule. Il baigne dans l'incrédulité, parce qu'il refuse, en entendant parler de Jésus, de croire qui est Jésus. Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste. Jésus, c'est Jésus. C'est la folie, c'est l'orgueil. Et la renommée de Jésus ne réjouit pas Hérode. D'ailleurs, dans la lignée de toute cette famille, il y a toujours eu de la folie. Toujours. Toujours. Et on se rend compte qu'ils se sont tous, d'une manière ou d'une autre, opposés à Jésus. Seulement, ils ont fini mal. Hein. Ce Hérode, parce qu'ils ont été plusieurs, c'est Hérode le tétrarque, Hérode Antipas. Vous avez Matthieu chapitre 14, verset 1er, qui nous renseigne. En définitive, c'est le fils d'Hérode le Grand. Et il a hérité de son père un quart de son ancien royaume qui comprenait la Galatie et la Pérée, en Israël. Et il a fait décapiter Jean-Baptiste. Et il l'a fait pour satisfaire ses appétits sensuels. Écoutez, il l'a fait pour satisfaire ses appétits sensuels. Il l'a fait décapiter à cause de son orgueil. En définitive, Hérode est un homme rongé par le péché. La folie, l'orgueil, l'iniquité, la perversité, les dérapages dans le domaine de la sexualité, de la pornographie, et j'en passe, viennent du fait que l'on reste sur une position charnelle et on refuse de croire en Jésus, de laisser Jésus agir, de laisser Jésus nous transformer, de laisser Jésus nous faire avancer. Vous avez parfois des chrétiens, malheureusement, qui tombent dans le piège de la pornographie, qui disent « Oh, mais c'est pas bien grave. » Si, c'est grave. La Bible dit que un peu de levain fait lever toute la pâte, le levain du péché. Et même Jésus va interpeller les gens de son époque et même ses disciples, et va dire « Attention, au levain d'Hérode !» L'image du péché, de la folie, de l'orgueil, de l'opposition à Christ, de l'incrédulité. Quelqu'un qui dit, mais non, je suis bien comme ça. Un pied, un petit peu avec Dieu. Un petit peu, un autre pied, un petit peu dans le monde. C'est impossible. Vous vous rappelez ce que Élie a dit aux enfants d'Israël? Jusqu'à quand clocherez-vous? De droite et de gauche. Vous avez déjà essayé à marcher sur un trottoir, et un pied sur le trottoir, un pied en bas du trottoir ou dans le caniveau? Moi, j'ai fait l'expérience. Ça fait ça. T'imagines marcher comme ça? Il y en a qui aiment bien marcher comme ça, tu vois, sur le plan spirituel. Ah, Jésus, le monde. Jésus, le monde. Jésus. Vous savez, si vous marchez ça, comme ça, pendant un bon bout de temps, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les hanches, elles vont en prendre un coup, hein. On va tomber à la longue, hein. Mais ça va en prendre un coup. Et vous allez aller voir après, Toubib, et vous allez, oh, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal aux reins, là. Vous pouvez pas faire une radio, là. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai marché un coup sur le trottoir, un coup dans le caniveau. Elle va dire, oh, bizarre, cette personne. En définitive, elle va récolter ce qu'elle a semé dans un certain sens. Ce qu'elle a voulu. Ce qu'elle a choisi. Des choix, des conséquences. Hérode est dans des choix. Il doit faire des choix. Vous devez faire un choix. Vous ne pouvez pas rester comme ça à dire, mais c'est pas possible. Je peux pas. J'y arriverai pas. J'ai pas, si, t'as un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Soit vous marchez avec Jésus, soit vous marchez loin de Jésus. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est impossible. Hérode le fait. Et comme il le fait, qu'est-ce qui se passe? Lui qui a côtoyé Jean-Baptiste, et je vais y revenir, il est du soir au matin, du matin au soir, il est hanté, si je puis m'exprimer ainsi, au plus profond de lui-même, par la mort de Jean-Baptiste. Parce qu'il est responsable. Il a ordonné cette mort, cette décapitation, pour maintenir sa réputation. Pour maintenir son prestige en tant que roi. Et vous avez des personnes qui clochent de droite et de gauche comme ça. Ils se disent, je louvoie. Un peu de Dieu, un peu de ce que me propose le monde, les ténèbres, le péché, en disant, mais je vais y arriver, je vais quand même arriver au ciel. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, je l'ai dit, je le répète, ça passe plus, ça bloque, il y a un mur, le Seigneur se pose là devant nous, il se propose à nous pour nous aider et nous sortir de cet état-là. Hérode s'est retrouvé devant cette proposition, par l'intermédiaire de Jean-Baptiste. Le Seigneur positionne quelqu'un devant nous pour nous parler du Seigneur Jésus, pour nous parler du roi des rois. Il se positionne. C'est le Seigneur Jésus. Pour qu'on fasse le bon choix. Donc Hérode a eu l'occasion. J'en parlais vendredi. Prenons l'exemple de Ponce Pilate, gouverneur. Lui aussi a eu l'occasion à un moment donné de réfléchir par rapport à ce qu'on vient lui dire. Quand il est là sur son trône et on lui dit « Mais attention, ta femme te fait dire qu'elle a eu un songe et qu'elle a vu cet homme juste. Attention à ce que tu vas faire, attention aux décisions que tu vas prendre à son égard. Ne te laisse pas influencer par le peuple qui crie « Barabbas, 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 Barabbas !» Mais Barabbas, il a tué ta mère. Barabbas, il a pillé ta maison. Barabbas, avec toute son équipe de voleurs, de brigands de l'époque, voilà ce qu'il a fait. Et tu dis, Barabbas, Barabbas, ils sont devant un choix. Et pourtant, même Pilate, lui qui peut influencer la foule, il décide de faire autrement à cause de son prestige politique, son prestige humain, son prestige charnel, sa place de gouverneur, lui Hérode, sa place de roi, enfin roi. Bref, un roi entre guillemets. Parce que celui qui dominait à ce moment-là, c'était César. Mais il s'était arrangé avec le gouvernement de Rome. Ceci étant dit, malgré tout, il veut maintenir sa réputation et son prestige en tant que roi. Il va commettre l'irréparable. Et c'est la raison pour laquelle il va avoir, eh bien, intérieurement du tourment. Sa conscience, on en parle vendredi, sa conscience, et on ne peut pas faire autrement que d'y revenir, sa conscience, elle va être tourmentée. Quand on ne fait pas le bon choix, notre conscience est tourmentée. Quand on n'obéit pas à Jésus, notre conscience, à un moment donné, est tourmentée. Quand on n'est pas à notre place spirituellement, notre conscience est tourmentée. Quand on n'avance pas avec le Seigneur alors qu'on a la possibilité de le faire, parce qu'il est là, parce qu'il est présent, parce que sa parole est une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, alors notre conscience est tourmentée. Et si elle n'est pas tourmentée, ça veut dire qu'elle est morte. Et si elle est morte, ça veut dire que j'ai fait déjà naufrage par rapport à la foi, parce que quand ma conscience est arrêtée, quand ma conscience, comme on en parle, pardonnez-moi pour ceux qui viennent vendredi, mais il faut y revenir, quand ma conscience ne fonctionne plus, alors à ce moment-là, il n'y a plus la foi. C'est lié. La Bible le dit, on en a parlé. C'est biblique, c'est spirituel, c'est doctrinal. Et de ce nombre, il y avait Hyménée, Alexandre, par exemple, dit Paul à Timothée, qui a fait naufrage à la foi, par rapport à la foi parce qu'ils avaient perdu leur bonne conscience. Mes amis, mes frères et sœurs, il n'y a rien de plus terrible qu'une conscience tourmentée. Hérode est tourmenté, je reviens à ce que je disais au début, tout à l'heure, il est tourmenté parce qu'il n'a pas voulu écouter la vérité qui sortait de la bouche de Jean-Baptiste. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous l'avons lu au verset 17. Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, il avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis, Hérode, d'avoir la femme de ton frère. » La femme de son frère Philippe, qui d'ailleurs, en faisant ainsi, en prenant la femme de son frère Philippe, donc Hérodias, il a provoqué une guerre avec le père de son ancienne épouse. Et ça a créé un gros problème, ça a scandalisé, nous dit, dans un certain sens, un peu la parole de Dieu, mais aussi l'histoire. Elle nous dit que la région, la population de la fameuse région dont il était le tétrarque, eh bien, a été complètement scandalisée. En définitive, cet homme, il veut garder son prestige. Il veut le préserver en faisant ce qu'il fait. Il va tourmenter son âme, mais en plus, il va passer aux yeux de la population pour un homme qui est inintelligent. Un homme qui n'a rien d'un homme. Un homme qui est fou. Un homme qui est orgueilleux. Un homme qu'il faut surtout pas écouter. Vous aviez certainement, à cette époque-là, des gens qui avaient compris cela. C'est terrible d'avoir un tel témoignage. Parce qu'il n'a pas écouté la vérité. La vérité, elle affranchit. La vérité, elle rend réellement libre. Réellement, réellement. La vérité, donc c'est Jésus, c'est ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est la parole de Dieu que je vous prêche ce matin. La vérité, elle a une puissance extraordinaire. C'est la vérité de l'Évangile, c'est la vérité du ciel, c'est la vérité de Dieu qui sort du cœur de Dieu, c'est la vérité qui vient de Christ, alléluia, car Christ lui-même vient du Père. Elle bouleverse la vérité, elle dérange. Je vais y revenir, mais elle bouleverse celui qui veut se laisser toucher vraiment en profondeur. Quelqu'un qui ne veut pas de la vérité, il va louvoyer, je l'ai dit, je le répète, c'est très important. Et donc, à un moment donné, il va passer pour un fou. Sur le plan spirituel, il ne peut pas tenir. Le Seigneur ne nous invite pas à marcher avec des béquilles. Il nous invite à marcher avec assurance. Amen. Il nous invite pas à marcher en boitant. Il nous invite à marcher en étant droits, des hommes justes, des hommes et des femmes vrais, des hommes et des femmes attachés à la vérité qui vient du ciel. Alléluia, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de dénoncer le péché. Jean-Baptiste a été quoi ? Il a été la voix de la conscience d'Hérode. Je peux être la voix de votre conscience ce matin, que Dieu me fasse cette grâce. Bref, Jean-Baptiste l'a été pour Hérode, la voix de la conscience. Mais le problème, on y revient encore et encore, et c'est là le problème, c'est qu'il n'a pas voulu écouter. Pourtant, la Bible nous dit qu'il prenait plaisir, à lui rendre visite. Mais enfin, ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement aujourd'hui. Il y a combien de gens qui prennent plaisir à venir dans un culte, qui prennent plaisir à venir dans une réunion la semaine. Mais est-ce que cela veut dire pour autant qu'ils acceptent la parole, la vérité, Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, comme libérateur, comme maître, alléluia, non. Je peux être présent quelque part, mais être absent. Je peux être là, faire acte de présence, mais je suis pas du tout en accord, en harmonie, réellement prêt à être touché. Jean-Baptiste, il aimait entendre Hérode aimait entendre Jean-Baptiste. Il aimait, donc quand, il était là, son contact, peut-être vous aimez la communion de l'Église, vous aimez entendre le pasteur prêcher la parole, vous aimez, cette communion, elle vous touche quelque part, elle vous interpelle, vous y prenez du plaisir, mais mes amis, mes frères et sœurs, il faut se ressaisir, parce que ce n'est pas cela qui nous amène au salut. La vérité dérange. Quand on est en porte-à-faux avec la bonne moralité, la vérité nous dérange. Quand on est en porte-à-faux avec la vérité de Jésus nous dérange. Ça me dit, je vais prêcher l'Évangile pour le mariage, je ne vais pas... Mais vous allez avoir des gens qui vont être dérangés. J'ai l'habitude. Hier, il y avait quelques personnes qui étaient dérangées à un moment. C'est pas grave, continue. Puis il y en a certains qui vont être dérangés, mais ils prennent quand même plaisir. Alors, mais fais le pas. Ça me fait penser, il y a tellement d'exemples dans la Bible, quand dans le chapitre 4 du livre des Actes, quand Pierre et Jean vont être arrêtés, ils vont passer devant le Sanhédrin, je passe les détails, et ils annonçaient la personne de Jésus, ressuscité des morts. Ils imposaient les mains aux malades. Un malade d'ailleurs va être guéri. Pierre et Jean vont être le témoin de cela. Et bien sûr, les Juifs. Cet homme avait, nous dit la Bible, était âgé de plus de 40 ans. C'est l'homme boiteux à la porte appelée la belle du temple à Jérusalem. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et là, il va y avoir la réaction des religieux. Il va y avoir le souverain sacrificateur Anne, il va y avoir Caïphe, Jean, Alexandre, tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils vont leur dire, mais par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Rempli de l'Esprit, on y revient, rempli du Saint-Esprit, on y revient, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Il va prêcher l'Évangile une fois de plus, il lui donne l'occasion. Allez, on y va. Il dit la vérité. Il annonce la vérité, relisez chapitre 4. Il dit la vérité, il y a sa prédication. Et il repart de Jésus. Et il part de Jésus pour parler de la guérison de cet homme âgé de plus de 40 ans, miraculeusement guéri par le Seigneur. Et il va dire, c'est en son nom une fois de plus que nous avons pu, eh bien, apporter la guérison à cet homme, lui, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. Il parle de Jésus, c'est par lui que cet homme est là en pleine santé devant vous. Et il va quand même leur dire, la pierre rejetée par vous qui bâtissez, elle est devenue la principale de l'homme. Mais moi je me mets à la place du des principaux sacrificateurs, des gens du peuple qui sont là, les grands, vous savez, les religieux. Et ils vont mais ils prennent un coup là. Là, il est en train de leur dire, mais vous êtes à côté de la plaque. Pardonnez-moi l'expression. Vous êtes à côté de la vérité. Vous êtes à côté de la réalité. Vous nous demandez comment cet homme est guéri. Mais cet homme est guéri parce que Jésus est réellement là. Jésus est présent au milieu de nous, même s'il est ressuscité à la droite du Père, mais il est venu. Et vous l'avez rejeté. Et vous le rejetez encore. Et à un moment donné, moi j'aime ce verset, acte 4:12, et Pierre va dire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus. Et vous savez ce qui les a interpellés? Ce qui les a interpellés, ces gens-là, c'est même pas la vérité. Ce qui les a interpellés, c'est l'assurance qui était la leur, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est ça qui les touche. Mais enfin, ce sont des hommes, Pierre et Jean, ils n'ont jamais été dans une école rabbinique. Nous, on a fait de grandes études théologiques, doctrinales, on est quand même quelqu'un. Nous sommes des hommes quand même religieux, connus, reconnus. Mais eux, mais comment se fait-il qu'ils aient autant d'assurance? Leur assurance nous interpelle, la vérité nous touche, la vérité nous bouscule. Alors, ils restent sur leur assurance. Ils sont dans l'assurance. Au lieu de dire, oui, ils sont dans l'assurance, mais c'est parce que ils ont laissé Jésus toucher leur cœur, la vérité les remplir. Voyez ? Donc, je vais terminer avec cet exemple et revenir avec Hérode, rapidement, mais sérieusement. Ils vont leur défendre absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Et aujourd'hui, si on pouvait me faire taire, si on pouvait faire taire mes collègues qui prêchent en ce moment l'Évangile, dans notre pays de France, si on leur donnait l'autorisation de nous faire taire, je vous assure qu'ils ne se gêneraient pas. Taisez-vous. Ne parlez plus de la vérité. Ne parlez plus de Jésus, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, eh bien alors à ce moment-là, on préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que vous avez fait un choix, c'est de ne pas suivre Jésus. C'est votre choix. Mais nous avons fait un autre choix. C'est de suivre Jésus, c'est de parler de lui. Et quand ils vont vers les croyants, je vais dans l'ensemble, quand ils vont vers les croyants, vers l'Église, ils leur exposent tout ça. Et qu'est-ce que font les chrétiens? Les chrétiens de l'Église du premier siècle, quand ils reçoivent le rapport de Pierre et Jean, ils vont pas dire « Oh, ya, 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 oh, on n'y arrivera jamais !» Mais Groyer, supposons que ça soit Groyer, mais Groyer s'en sortira jamais. Groyer avancera jamais. Groyer ceci, Groyer ceci. Arrêtez avec Groyer. C'est pas Groyer ceci, Groyer cela. C'est l'Église de Jésus-Christ d'une manière générale. Elle est là, elle est ailleurs, elle est ici, elle est là-bas. Le Seigneur veut que cette vérité, elle touche. Et elle est capable de toucher. Pourquoi ? Parce que l'Église va prier derrière. Et ils vont dire, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas déjà de l'assurance? Eh oui. Mais ils vont continuer à en avoir un peu plus. Et quand ils ont prié, le lieu où ils étaient, il trembla parce que le Saint-Esprit les a visités. Il nous a visités ce matin, mais il faut que ça aille plus loin. Et quand vous lisez les versets qui suivent, eh bien, il nous est dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force de témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs, etc., etc. Ils vont donc vivre la communion, la puissance de Dieu. On repousse souvent la vérité parce qu'on se complaît dans son péché qui aveugle et qui fait vivre dans l'illusion du lendemain. Moi, je ne suis pas dans l'illusion du lendemain. Je crois ce que Dieu va faire demain parce que la Bible nous en parle. Je ne suis pas dans l'illusion. Vous non plus, j'espère. Sinon, vous avez du souci à vous faire. Il faut revenir. Je vais un tout petit peu plus loin, si vous me permettez. Hérode a voulu donc enfermer. Il a voulu emprisonner la vérité. En maintenant Jean-Baptiste en prison. Est en prison, on est tranquille. Verset 17. Il a fait arrêter Jean-Baptiste. Il a fait mettre Jean-Baptiste en prison à cause d'Hérodias. Hérodias aurait bien voulu faire mourir Jean-Baptiste pour que la voix de sa conscience, également de son côté, ne se fasse plus entendre. Mais Hérode n'a pas voulu parce qu'il craignait Jean-Baptiste pour plusieurs raisons. Je me permets de revenir là-dessus. Il craignait Jean-Baptiste parce qu'il connaissait Jean-Baptiste comme étant un homme juste et saint. Mais Hérode, pourquoi tu n'as pas changé? Il y en a beaucoup, peut-être ce matin, ils sont au contact du témoignage d'une telle réalité qu'ils voient. Parce que ça se voit. Et pourquoi vous ne changez pas en venant à Jésus? Pourquoi, je me permets de dire cela, je suis poussé à le faire, pourquoi ne changez-vous pas en venant à Jésus? Pourquoi continuez-vous à rester drapé, figé, coincé, emprisonné dans le péché? Mais venez à Jésus. Laissez prendre, laissez-lui prendre ou laissez-lui reprendre toute la place. Il va faire mettre Jean-Baptiste en prison à cause d'Hérodias. Une autre raison, c'est qu'Hérode sortait de ses entretiens avec Jean-Baptiste tout perplexe. C'est marqué. Qu'est-ce que ça veut dire être perplexe? Là, je suis un peu perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Être perplexe. Quelqu'un de perplexe, c'est quelqu'un qui hésite. Il est hésitant. J'y vais ou j'y vais pas? C'est oui ou c'est non? Il a raison ou il n'a pas raison? Mais je le dis avec mes mots, mais malheureusement, je côtoie des jeunes et des moins jeunes. Quand je parle avec eux, ils disent « Ah, mais moi, je ne cherche pas Dieu. Moi, je crois en rien. Moi, je ne sais pas. Oh, ben, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas, c'est incroyable, vous ne savez rien, quoi. Mais c'est fou, ça. Mais comment on peut être aussi perplexe? Et ce n'est pas seulement des gens, je dirais, seulement des gens qui, sur le plan intellectuel, peut-être ne sont pas à un haut niveau, mais même là, Hérode, ce n'est pas n'importe qui non plus, quand même, je pense. Donc, sur le plan intellectuel, c'est un homme qui a un certain savoir, et pourtant, il est perplexe, il est hésitant. Quelqu'un d'hésitant, c'est quelqu'un qui ne sait plus quoi penser. Quelqu'un de perplexe, c'est quelqu'un qui ne sait que faire dans une situation embarrassante. Est-ce que je continue ou pas? Oh, c'est pas bien grave, je continue. C'est quelqu'un de perplexe, je vais encore plus loin, hein. Voilà. Quelqu'un de perplexe, c'est quelqu'un qui est inquiet. Quelqu'un de perplexe, c'est quelqu'un qui est indécis. Quelqu'un de perplexe, c'est quelqu'un d'irrésolu. Et je pourrais continuer, hein, avec tous les synonymes. Et il était comme ça. Il prenait plaisir à l'entendre. Il était comme un certain gouverneur Félix, acte chapitre 24, versets 24 et 25, qui remettait à plus tard, à un temps plus propice, eh bien, le fait d'accepter le Seigneur Jésus, dont lui parlait l'apôtre Paul, pour Félix. Hérode, pareil, dont lui parlait Jean-Baptiste. Malheureusement, il a laissé le temps passer. Et je voudrais quand même insister là-dessus, si vous me permettez, n'attendez pas que le temps passe. Vous savez, on dit souvent, oui, mais le temps va arranger les choses. C'est complètement faux, cette affaire-là. J'en ai marre, ça c'est une philosophie qui ne tient pas debout, d'ailleurs, c'est la philosophie des hommes. Le temps, laisse passer le temps. Mais arrêtez avec ça. Personnellement, écoutez, je vais sur mes 54 ans. Eh bien, ça fait tant d'années que j'ai cru, peut-être dans le passé, qu'on pouvait effectivement laisser le temps. Mais le temps n'arrange rien. Le temps ne calme rien. Le temps n'arrange rien. Le temps, au contraire, il détruit. Le temps, eh bien, au contraire, il nous fait vieillir. Le temps, au contraire, regardez-vous dans une glace. Vous êtes tout beau. Rendez compte ? Max, alors, il n'en revient pas. Il s'est dit, c'est pas possible qu'il ait dit ça. Mais non, mais je dis une vérité. Alors, ça vous choque, parce que aujourd'hui, ben, dès qu'il y a trois rides qui apparaissent, il y a... Oh là 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 là. Moi, je suis content à l'âge que j'ai parce que je suis plus beau que quand j'étais jeune. Non, mais c'est vrai. Toi, tu arrêtes avec les photos, là. Il est allé chercher sur Internet. D'ailleurs, j'ai demandé à un collègue de la retirer, mais il m'a dit, j'ai plus le code de l'ancien site. Mais je suis bloqué. Je vois la photo, je dis, mais c'est pas possible, c'est pas moi. Mais quand je me regarde aujourd'hui, je dis, béni soit Dieu, qu'est-ce que je suis devenu beau, dit. Souvent, vous savez, ça vous fait rire, mais souvent, j'entends ça. Il y a des gens qui voient votre photo quand vous aviez 20 ans, hein, 25, 30 ans, et ils vous voient aujourd'hui quand vous avez 50, 60 ans, hein, et ils disent, on vous préfère maintenant. C'est pas arrivé ça? C'est vrai ou pas? Oh, tu es le seul alors, hein? Max, tu es le seul, hein? Bon, ceux qui écouteront le message enregistré vont se dire qu'est-ce que c'est, ces discussions. Non, mais malheureusement, c'est vrai. Alors, j'ai dit un petit peu sous la plaisanterie, mais il y a une réalité. Le temps. Le temps, il n'arrange rien. Vous achetez une voiture, elle est toute neuve. Et au bout d'un moment, où il est ? Roger, et toi, tu ne l'as pas achetée neuve. Regardez, mais le temps est passé sur la voiture. Voiture puissante, hein ? Mais avec le temps... Toujours aussi puissante, sauf quand elle ne marche pas. Enfin, qu'elle ne fonctionne pas. Ça s'use, hein. Voilà, il faut changer les pièces. Une maison, ça s'use. Il faut un petit peu y mettre de ceci, de cela. C'est pas vrai? Hein, faut... Bref, pour reprendre plein d'exemples. Alors, je m'arrête là parce que, sur les exemples, parce que je vais passer toute la journée là-dessus. Non, non, je voudrais être simple et je vais terminer. Hérode aimait entendre la vérité qui sortait de la bouche de Jean-Baptiste, mais il n'a pas permis à cette vérité de la franchir et de le changer. Combien sont dans cette situation-là? Combien aujourd'hui? Combien? Je voudrais vous raconter une histoire que j'ai là devant les yeux. C'est une histoire mais qui fait partie de l'histoire, hein, de notre monde. C'est Frédéric II, pas toi, hein. Dis-toi là-bas. De Prusse, qui était très fier de son cheval de parade. C'est vrai, hein, l'histoire. Hein. Frédéric II de Prusse était très fier de son cheval de parade. Et un jour, on vint lui annoncer la maladie de sa monture favorite. Aïe, aïe, aïe. Alors, il ne voulait pas y croire. Il a protesté, et d'un ton rageur. Il a perdu la tête, là. Hein. Il a dit... Il a donné cet avertissement, il a dit ceci, avis à toute la cour. Quiconque oserait insinuer le décès possible de mon animal sera pendu sur le champ. Ouah ! Là, ça rigolait pas, hein. Quelques jours plus tard, sa monture favorite, son cheval, mourut. Et malgré les soins dispensés, il mourut. Rien à faire. Alors les palefreniers donc étaient dans l'effroi, vous imaginez un petit peu, parce qu'il fallait cependant aller tous les jours au rapport auprès du roi pour lui dire comment allait le cheval. Et alors c'est un jeune palefrenier qui s'est dévoué pour ce service. Quel courage! Mais attendez, très intelligent. Il arrive et Frédéric II de Prusse va lui dire. Comment va-t-il, mon cheval ? Dit sire, le cheval est à sa place habituelle. Attendez, c'est pas fini. Il est étendu. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Il ne respire pas. Et alors le roi, quelques-uns, lui dit, mais c'est comme s'il était mort. Eh bien, votre majesté ne se trompe jamais. Et c'est elle, sire, qui a bien voulu se charger d'annoncer la triste nouvelle. Il est intelligent, celui-ci. Et le roi a dû se soumettre, effectivement, l'inévitable, il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Lui, il avait du mal, si déplaisante soit-elle. C'est la Bible dit, dans le psaume 112, verset 7, « Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. » Craint pas les mauvaises nouvelles. Craint pas. Hérode était prisonnier de lui-même, de son entourage, de son propre état de péché. Je conclus, verset 21 et 28, et je le dirai en deux minutes. Le diable va toujours attendre le moment propice. Toujours, toujours, pour accomplir ses desseins destructeurs dans la vie d'un homme, d'une femme, qui n'a pas su saisir l'occasion de Dieu et permettre à la vérité de faire son œuvre en profondeur, comme on en a déjà parlé. Il y a des fêtes fatales qui peuvent tourner un véritable cauchemar. Ça a été le cas, là. Ça a été le cas. Le diable connaît les points faibles qui fragilisent le socle sur lequel se tenait Hérode. Et qui allait être fatal pour lui. Le diable connaît notre point faible. À lui de ne pas lui laisser l'avantage. Et de lui résister avec une foi ferme. Pour Hérode, c'était la séduction, la fille d'Hérodias, l'orgueil du pouvoir, la vantardise qui s'engage sans réfléchir aux conséquences. Et le cauchemar d'Hérode va commencer quand la fille d'Hérodias va lui demander la tête de Jean-Baptiste. Alors je conclus en disant ceci, et en m'appuyant sur une histoire vraie également, me permet d'imager un peu les choses pour conclure. Un homme qui se prénommait Maximin Isnard, qui était un député du Var, président de la Convention sous la Révolution, membre d'un parti qui s'appelait le Parti Girondin, bon, il faut connaître un peu l'histoire, quand en juin 1793, donc c'est précis, ses amis furent arrêtés, guillotinés, lui il a réussi à s'échapper. Il a été mis hors la loi, il a dû se cacher pendant toute la terreur, dans cette période de l'histoire, dans une cave du faubourg Saint-Antoine à Paris. 13 mois plus tard, ça a duré, hein, la chute de Robespierre, je vous refais un peu d'histoire, la chute de Robespierre le sauva. Mais pendant ce temps d'angoisse, il avait réfléchi, il s'était abandonné, 13 mois, il s'était abandonné à la grâce de Dieu pour un plus grand salut que celui de sa vie terrestre, parce qu'il se disait, à un moment donné, je vais finir par être attrapé, je vais finir par être guillotiné aussi. Et il dit ceci, « Si je n'avais pas été proscrit, disait-il, je serais mort sans avoir vécu. Mais mon malheur m'a fait faire une pause décisive dans le chemin de la vie. » Et ça lui a permis de se tourner vers Dieu. Il y a des situations qui vous paraissent difficiles, c'est peut-être un moment, justement, ce matin, là, maintenant, pour dire, c'est maintenant que je veux obtenir la grâce de Dieu. La vérité me touche, je veux pas simplement prendre plaisir, être là, passer un petit moment, que ce soit 30, 40, 45 minutes, quand le pasteur prêche, ou un peu plus, j'en sais rien. Non, c'est maintenant, aujourd'hui, le jour du salut, maintenant le temps favorable. Dans le monde agité où nous vivons, l'homme n'a plus le temps de penser. C'est peut-être là une des victoires les plus importantes de l'ennemi. Pourtant, les avertissements que Dieu donne ne manquent pas, mes bien-aimés. Mais l'homme ferme ses oreilles, Hérode a fermé ses oreilles, Félix, le gouverneur, a fermé ses oreilles. J'aurais pu citer bien d'autres exemples et peut-être certains jusqu'à aujourd'hui. Je vous encourage, ne fermez plus vos oreilles, ne fermez plus votre cœur. Dieu vous a parlé et les jours s'ajoutent aux jours jusqu'à ce que viennent les années dont on dit, comme l'Ecclésiaste l'a dit, eh bien, je n'y prends point plaisir. Il arrivera un moment donné, eh bien, la vieillesse étant, le temps étant passé, vous allez dire, mais j'ai perdu trop de temps. Vous êtes jeune, les jeunes. Je vous parle là, toi. C'est pourquoi je dis toi. Hein. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? C'est aujourd'hui. C'est maintenant. N'attendons pas 13 mois. Quoique ça ait été salutaire. Mais c'est aujourd'hui. Alors j'ai pris le temps encore de développer la parole. On va prier quelques instants. Amen. Alors ce que je te demande, c'est de rendre grâce à Dieu. De dire merci à Jésus. Et de prier pour tous ceux qui sont là, qui ont entendu l'évangile. En même temps, tu pries pour toi, tu pries pour moi. Parce qu'on a toujours besoin d'aller plus loin avec Dieu. D'accord ? Vas-y.
Seigneur, protège-nous pendant cette matinée. Garde-nous, Seigneur, pendant cette journée. Merci de nous avoir protégés jusqu'à aujourd'hui. Merci pour le culte de ce matin, Seigneur. Garde-nous tous les jours. Amen.
Amen. Alléluia.